Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, 23h02 sur RMC, on est en direct et ça continue encore et encore. Le PSG ne cesse de gagner, le PSG remporte son deuxième trophée dans la Supercoupe en battant Aston Villa 2-1. On va débriefer évidemment ce match, ce premier match officiel du PSG et déjà un premier trophée, le PSG qui fait le doublé. Il y avait eu la Ligue des Champions, il y a le doublé également avec cette Supercoupe. 2-1 face à Aston Villa, les buteurs Gvara à la 20e, Majo a égalisé à la 45e pour les Villains et c'est Désiré Doué qui a mis le but de la victoire. Pour parler de ce match, on est aux côtés de Maxime Chanot. Salut Maxime.
Salut Karine, salut à tous.
Et de Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Salut Daniel.
Tout va bien et en ce 12 août, évidemment, on pense plus que jamais à Roland Courbis. C'est ton anniversaire, coach. On te souhaite un très bel anniversaire où que tu sois. On t'aime très fort. On pense toujours à toi. Ce studio porte ton nom. Et puis, on pense évidemment à Clara, à Olivia, à Stéphane et à Yacine. Et j'espère que tu as pris du plaisir en voyant ce match. On va le débriefer, messieurs, ensemble. On parlera également du trophée des champions. Le PSG qui pourrait avoir deux trophées dans la même semaine. Ça sera dimanche face à Lens. Et puis, les infos du jour avec la surprise du chef, les Pays-Bas qui ont choisi Chef vie comme nouveau sélectionneur des Oranges. Mais on va commencer avec le PSG qui avait du
et
lourd.
Et non pas sur... Roberto Martinez, fort heureusement, parce qu'il était également dans les petits papiers.
Ouais, mais ce soir, il était dans les tribunes d'ailleurs, ouais. À Salzbourg.
Ah, mais là, franchement, quand j'ai entendu que Roberto Martinez avait discuté, mais ne serait-ce que discuté,
dans les limites. Il a un très bon agent.
Il doit avoir un très bon agent, tout simplement.
Enfin, on en parlera tout à l'heure.
Ça fait partie de ces entraîneurs qui sont très bons en entretien.
Ah ben c'est un ami de Rudy Garcia.
J'en connais d'autres.
C'est l'entretien d'embauche. Voilà.
Donc Roberto Martinez espérait le poste. Il était ce soir à Salzbourg. Il a dû apprendre que finalement c'était cuit et que c'était Xavi. Mais bon, on s'interrogera aussi quand même sur ce choix parce que c'est assez surprenant. Un homme qui n'a plus entraîné depuis 2 ans et puis un homme qui est très frais dans le milieu évidemment des entraîneurs parce que il n'a pas beaucoup d'expérience. Son expérience la plus notable, c'est évidemment entraîneur du Barça. On va revenir sur la finale. Donc Luis Enrique qui avait mis une équipe vraiment compétitive, Marquinhos et Pacho dans la axe, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, le milieu de terrain, Zaire Emery, Vitinha, Neves, Désiré Doué, Gvara et Akliouche, titulaire pour la première fois avec le PSG, premier match pour l'ancien Monégasque. D'ailleurs, il a été sorti à la mi-temps, c'est Ousmane Dembélé qui l'a remplacé. Messieurs, le PSG qui s'impose 2-1, le PSG au rendez-vous une nouvelle fois, le PSG qui n'est jamais rassasié. Daniel, on en parlait hier, nous on se demandait comment trouver parfois de la motivation, le PSG en trouve et les joueurs aussi.
C'est toujours ce même sentiment d'invincibilité d'une équipe qui semble, comment dire, même plus qu'imbattable, en fait, imperturbable. Elle a été bousculée ce soir, elle a subi, elle a concédé des occasions, mais elle est efficace, elle est sûre d'elle, elle dégage toujours autant de confiance. Je sais pas le nombre de fois où je me suis dit dans la soirée, en regardant certains joueurs qui sont dans cette équipe et en me souvenant de ce qu'ils avaient fait avec le maillot de l'équipe nationale, je disais, mais en fait, c'est... J'ai commencé par Vitinha, c'est le premier que j'ai vu. Bon, évidemment, c'est pas le même quand il joue avec le Portugal. Après, il y a Dembélé, après il y a Doué, et on peut tous les enquiller comme ça. C'est pas les mêmes avec le maillot du PSG, dans cette config, avec ce coach, dans ce collectif-là qui est maintenant depuis 2 ans et demi incroyable. Ils sont tous plus forts. Ils dégagent tous une assurance, une sérénité, quelque chose qui donne le premier sentiment que j'ai évoqué ce soir, cette invincibilité. Et ça, c'est la première remarque sur le match. La deuxième, c'est que pour un match où les équipes sont pas prêtes, où on est mi-août, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de rythme. J'ai trouvé le match assez agréable à suivre. Non seulement il y a eu du rythme, mais il y a eu des occasions, il y a eu de l'intensité. Alors, je me souviens que l'année dernière, contre Tottenham, le PSG avait également fait un match peut-être un petit peu moins bon que celui de ce soir, et encore. Et puis après, dans la foulée, beaucoup de joueurs avaient disparu, on les avait reposés, ils avaient refait des prépas. Enfin, on avait eu une première partie de saison assez bizarre. Je ne sais pas si ça sera la même chose cette année, mais il est fort possible que passer le match de ce soir et l'enchaînement de dimanche, après on retombe dans un turnover très large pour que tout le monde se repose. En tout cas, ce soir, c'est gros match, parce que c'est vitrine européenne, donc on met tout le monde dans la vitrine. Il y a eu un moment, on était dans l'équipe type moins Ruiz, finale de Ligue des Champions quand même. Hein.
Oui, oui, il a mis l'artillerie lourde. On en parlera aussi des choix. On a bien compris que Barcola, qui est annoncé partant, ça s'obscurcit encore plus pour lui.
Je ne suis pas sûr que les deux premiers matchs de championnat de la saison, on ait ce genre d'équipe.
Non, ça risque
je suis
pas
prêt à parier que ce sera le contraire.
Il fera peut-être plus de changements comme l'an dernier. Maxime, on rappelle que le PSG avait beaucoup moins d'entraînement que Aston Villa. Deux matchs de préparation pour le PSG. Il y en avait six du côté d'Aston Villa et le PSG a été au rendez-vous. Toi aussi, tu as apprécié ce match de reprise. C'était un bon match.
Oui, c'était un match plaisant. Alors, comme tu l'as dit, hein, je pense qu'Aston Villa, leur premier match, c'était une semaine avant la reprise du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui avait débuté avec seulement 9 joueurs. Donc, c'est vrai qu'on pouvait se poser un petit peu la question de la condition physique de tous ces joueurs. J'étais très étonné de voir le 11 titulaire mis en place par Luis Enrique. Mais je l'ai dit hier, tu sais, c'est une finale de Supercoupe. C'est pas facile d'y arriver. Il faut gagner la Champions League pour pouvoir avoir la chance de jouer ce genre de match. Donc voilà, il faut pas le banaliser. Je trouve que les Parisiens ont pris le match du bon bout. Et jusqu'au but de Kvara, Kvara qui a fait un match exceptionnel, qui était finalement le seul Parisien à ne pas avoir joué le mondial, en tout cas en être prêt physiquement, sans évidemment compter Safonov, le gardien.
Lui, s'il a fait sa petite prépa perso et tout, avec toutes les vacances qu'il a eues, c'était logique qu'il arrive en pleine forme, le gars.
Mais bon, tu sais, c'est un premier match. Tu sais jamais, Daniel, comment que ça peut se passer. Tu vois, il faut aussi trouver ton souffle. Mais c'est vrai que dans les courses à haute intensité, offensivement et défensivement, je l'ai trouvé très, très précieux pour ce Paris Saint-Germain. Bon, on reviendra un peu plus tard sur les individualités, mais d'un point de vue collectif, j'ai trouvé ce Paris Saint-Germain sérieux, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des grosses occasions côté Aston Villa, et notamment du petit Brian Maggio. J'espère qu'on aura la chance aussi d'en reparler. Parce
premier match pour le buteur du soir.
Et puis surtout luxembourgeois, c'est rare d'avoir des luxembourgeois qui brillent. Alors même si
est-ce que c'est la nouvelle star du Luxembourg?
Il l'est depuis un certain temps, mais il a choisi de trahir le Luxembourg, si je peux me permettre de dire ça, en quittant l'équipe nationale pour choisir l'Angleterre. Je pense qu'il a eu.
Ah oui, donc il n'est plus du tout luxembourgeois.
En tout cas,
fini.
Il est un peu comme moi. Je veux dire, il est moitié-moitié. Enfin, tout ça pour te dire que ce soir.
Il est quand même né au Luxembourg. Il a un lien parce que.
Il est né en Angleterre, me semble-t-il. Il est né en Angleterre, mais il est arrivé très tôt.
Alors qu'est-ce qu'il a de luxembourgeois? Il est parti en vacances là-bas une fois, il a passé une semaine, il a un compte en banque là-bas. C'est quoi?
Il a joué avec Maxime Chano, ça le suffit pour être un peu luxembourgeois.
Enfin, en tout cas, honnêtement.
C'est
justement à cause de ça qu'il a quitté pour l'Angleterre.
Honnêtement, je ne sais pas si un jour je m'enthousiasmerais sur ce joueur-là. Il a 17 ans, donc
il est encore tout. Ouais.
C'est typiquement le genre d'attaquant que je déteste. Quoi.
Ah ouais. Tu dois quand même reconnaître qu'à 16 ans, c'est
que de la puissance. Non mais il a 17 ans, donc c'est pour ça que je vais le laisser tranquille. Mais dans la façon de jouer et tout, je sais pas, donne-le à Lucien Riquet et vois s'il le prend dans son équipe.
Ah oui, mais évidemment, il est peut-être pas compatible
Gratos,
Paris Saint-Germain, mais bon, tu dois quand même avouer qu'il
est pas compatible football, quoi. Il est compatible
mi-temps.
machine qui pousse devant.
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Football.
Mais si tu t'attends à avoir un mec qui est capable de combiner dans les petits espaces, non, en effet, quand tu fais un 93 ou un 94,
c'est quoi le football alors? C'est quoi? Tu balances devant et tu bouscules. Il a mis le but. Il a mis le but, je ne sais même pas s'il a compris que le ballon lui avait rebondi sur le pied.
Je suis d'accord avec toi sur ce coup-là, c'est vrai que le but est plus difficile à mettre que les deux actions juste avant qu'il a loupé.
Non, parce que Daniel, quand tu es grand et baraqué comme ça, que tu rates ton timing de tête sur juste avant, c'était 5 minutes avant l'égalisation, enfin, franchement.
Ouais, mais à 17 ans. Alors,
encore une fois, il a 17 ans. Ne me faites pas parler de lui parce que je vais être trop méchant alors qu'il n'a que 17 ans.
Mais c'est tout seul sur lui.
Mais non, mais c'est l'autre, il n'arrête pas d'insister à dire il est luxembourgeois, il est bon, il est ceci, il est cela. Mais non.
Il est luxembourgeois qui brille, Daniel, que quand on a.
Même pas, il est même pas luxembourgeois, je sais même pas, tu lui inventes un passeport là.
Ouais, écoute,
il a un quart. Ah oui, un quart, c'est quand même beaucoup. Il faut effectivement un quart.
Quoi qu'il en soit, il a un rapport avec le Luxembourg. Je trouve qu'il a mis un mal Pacho, qui est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde.
À seulement
17 ans, voilà, je voulais juste le mettre en avant.
Oui, à l'épaule, il était en difficulté. Après, avec le ballon, c'est encore autre chose. Mais enfin, bon, il a 17 ans, laissons-le tranquille.
Et c'est lui qui a marqué le but d'égalisation.
Il a été très bon. Écoute,
moi, tu me le donnes dans n'importe quelle équipe, je signe pas un joueur comme ça.
Je peux te dire que nous, Luxembourg est meilleur.
C'est football.
Il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui seraient contentes d'avoir un Brian Maggio à 17 ans dans leur effectif.
Oui,
mais j'entends ce que tu dis, c'est sûr que c'est pas forcément très
Villa,
fort techniquement.
Après,
on a vu des mecs comme Lukaku qui ont fait une carrière quand même assez incroyable avec ce même joueur.
Rien à voir. Lukaku, il a des pieds. Lukaku, il a des pieds, rien à voir.
Mais Maggio, il a 17 ans.
Mais Lukaku, il est technique, Lukaku, ça n'a rien à voir.
Il a 17 ans dans une équipe qui a joué contre le Paris Saint-Germain, qui est la meilleure équipe du monde.
Je sais pas, à 17 ans, il faut qu'il trouve la boutique où on achète des pieds, mais pas de problème.
Ouais, je te trouve un peu dur. Enfin, écoutons, on en reparlera. En tout cas, bravo à lui.
Et
puis bravo au Paris Saint-Germain, parce que pour terminer par rapport à mon analyse sur les Parisiens, je les ai trouvés sérieux, même si je l'ai dit un peu plus tôt, ils ont quand même eu des occasions.
Comment ça sérieux? Tu voulais qu'ils soient pas sérieux? C'est une équipe qui n'est que sérieuse, qui est tout le temps performante. L'adjectif sérieux, je le comprends pas. Ils sont toujours sérieux. Paris, c'est, ils prennent rien à la légère. Ils sont toujours performants.
Non, parce qu'on disait hier, et toi le premier, Daniel,
en fait, t'as l'impression qu'ils sont affamés en permanence. Non, moi ce que j'ai dit, c'est que si jamais ils avaient perdu, je ne crois pas que ça aurait rendu malheureux les supporters du PSG, qui relativisent l'importance de cette compétition par rapport à, je ne sais pas moi, si tu perds 8e de finale de Ligue des Champions l'année prochaine, t'es éliminé. Je pense que là tout le monde est abattu.
Bien évidemment, on a vu des équipes.
C'est bien parce que tu la gagnes et parce que t'es content, tu fais la fête et tout, mais si tu la perds, bon voilà, ça va pas t'empêcher de dormir. On a eu tout le monde. Tu perdais ce soir, tout le monde passait une très bonne nuit.
Ouais,
tu
les
perds en 8e de finale de Ligue des Champions, ta nuit elle est un peu agitée.
Dont les joueurs.
C'est juste ranger les choses, c'est ranger les compétitions, ranger les.
Mais bien évidemment, ranger les sentiments. L'élimination en Champions League serait bien plus grave, bien plus catastrophique que cette défaite s'ils avaient perdu contre Aston Villa. Ce que je veux dire par, ils ont
c'est
été
comme
sérieux.
Comme le trophée des champions dimanche, tout le monde dormira tranquille si ça devait mal se passer.
Bon, quoi qu'il en soit, je trouve qu'ils ont pas banalisé ce match-là. Ils se sont rendu compte que c'était quand même une finale qui pouvait rajouter un trophée supplémentaire à un cycle.
Quand tu l'as, t'es content, évidemment que t'es content.
Et donc voilà, j'ai trouvé les Parisiens intéressants.
Une équipe sérieuse, et actuellement on est en train de voir Luis Enrique, les joueurs, le staff célébrer ce nouveau trophée, la Supercoupe, la deuxième de l'histoire du PSG après celle remportée l'an dernier. Le PSG qui a gagné grâce à un but de Désiré Doué, le but du 2-1. On écoute l'international français.
C'est l'état d'esprit qu'on a, l'état d'esprit de toujours vouloir gagner, d'être les plus compétiteurs qu'on puisse être. Et voilà, ce soir on a encore montré de très bonnes choses. On a su être efficace devant le but, bien défendre aussi même si on prend ce but. Ça a été une très bonne équipe d'Aston Villa en face, mais on est très content. Retour de vacances, on sait que c'est pas facile, mais on a mis les choses en place ce soir.
Retour de vacances effectivement pour Désiré Doué qui a joué la Coupe du Monde avec la France. Messieurs, qui vous a plu ce soir? Parce qu'on l'a dit, en tout cas Luis Enrique prenait ce match très au sérieux. C'était la grosse équipe. La seule nouveauté, c'était Akliouche, le nouveau Parisien. Vous allez me dire aussi ce que vous en avez pensé. Il a joué 45 minutes après, il a été remplacé. Qui vous a plu et qui vous a un petit peu inquiété? Parce qu'on a parlé de Pacho qui a été un petit peu en difficulté. Safonov qui a fait plusieurs arrêts.
J'allais
encore
en parler,
une fois.
Ouais, parce que hier, Daniel m'est tombé dessus quand je parlais de Safonov et que je trouvais que c'était pas forcément le gardien qu'il fallait pour le Paris Saint-Germain.
Mais
il
était
bon,
Il m'a fait mentir.
Oui. Il m'a fait mentir. Je fais mon mea culpa.
Bah, il t'a fait mentir toute la saison dernière. Il a tout le temps été bon.
Paris Saint-Germain, en tout cas, termine.
Il est tout le temps bon. Non. Il a un style un peu bizarre, mais il est bon.
Si le Paris Saint-Germain remporte ce trophée, c'est aussi parce que Safonov a été bon. Et Pikvara, évidemment, parce que je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai beaucoup aimé ses courses à haute intensité, défensives.
Max, puisque tu parles du gardien et qu'il y a cette idée reçue, parce que moi j'aime bien combattre les idées reçues. Demain, tu as le droit de prendre le gardien que tu veux. Et tu le mets au PSG. Tu mets qui?
Alors, je vais me faire tomber dessus. Moi, je relance Chevalier. Pourquoi je relance Chevalier? Parce qu'il est très compatible, Luis Enrique. Et je parlais un peu plus tôt. Et d'ailleurs,
Demain, tu essaies de relancer Chevalier après ce qui s'est passé, Daniel.
Je pense que si le Paris Saint-Germain veut continuer à évoluer, ils ont besoin d'un gardien qui, avec le pied.
Bah alors, donne-moi un nom. Je te donne carte blanche partout en Europe. Donne-moi un nom que tu mets en Europe. On a vu la Coupe du Monde ensemble et tout. Donne-moi un gardien qui te saute aux yeux, qui est extraordinaire en ce moment, que tu as envie de mettre dans les buts.
Tu me parles d'un gardien qui est libre ou pas?
Non, tu prends ce que tu veux.
Je prendrai David Raya, alors d'Arsenal. Voilà, pour moi, sur la ligne, est beaucoup plus intéressant, qui a l'habitude du très haut niveau, qui peut te faire gagner des points. Ça n'a pas forcément été le cas de Safonov l'année dernière.
Aussi, il t'en fait gagner des points, il t'en fait gagner la Ligue des Champions.
Je dois t'avouer que je fais mon mea culpa, je l'ai dit, Daniel, que Safonov a encore fait gagner le Paris Saint-Germain. Ça n'a pas forcément été le cas toute la saison dernière. Mais voilà, encore une fois, ça n'engage que moi. Si le Paris Saint-Germain veut continuer à évoluer.
Donc le mec qui n'est pas titulaire avec sa sélection, tu le prends, la place.
Ouais, mais tu sais très bien que c'est pas normal.
Quoi qu'il en soit, si
le Paris Saint-Germain veut continuer, on parlait du free pit un peu plus tôt, hein, c'est un terme bien connu aux États-Unis. Ça veut dire trois fois d'affilée. Si le Paris Saint-Germain veut continuer à évoluer, j'avais dit que potentiellement, il faudrait faire évoluer les défenseurs centraux, en l'occurrence, prendre un backup à Marquinhos et surtout un backup qui est capable de jouer titulaire et un meilleur gardien. Ce soir, Safonov m'a fait mentir.
Nous, on dit le triplé, tout simplement. Ça marche.
Tu sais très bien que je suis international comme Real Madjo, donc je parle
Je sais que tu as toutes les langues qui viennent à toi. Ouais. Donc le triplé, c'est un objectif également du PSG. Donc Safonov qui a fait des gros arrêts, notamment aussi dans le déroulé du match, on le rappelle. Hein, lorsqu'il y a un but partout, il y a plusieurs occasions pour Aston Villa pour marquer le deuxième but et puis finalement, c'est Doué qui donnera le but de la victoire. C'est pas un grand Pacho ce soir. Hein. L'Équatorien n'a pas été très à l'aise et donc ce fameux Majo quand même lui a posé quelques problèmes, Daniel.
Mais très à l'aise de quoi en fait? Très à l'aise de quoi? Il avait un attaquant qui lui a imposé une sorte de combat physique, donc il a été en difficulté, mais à côté de ça, qu'est-ce que tu notes chez Pacho ce soir pour
mais par exemple sur le but, il est quand même dos au ballon, il regarde pas mais le ballon
bien
arriver.
Bien sûr, mais il s'est fait manger par un gamin de 17 ans, je te comprends pas Daniel, il faut être quand même logique.
Physiquement,
mais voilà, mais ça fait partie du foot le physique, non ?
Mais bon, OK, très bien. Oui, OK. Mm. Ok, donc il a été nul alors.
Parce il n'a pas été nul, on n'a pas dit ça. On a dit qu'il était en difficulté face à un gamin qui jouait son premier match officiel avec Aston Villa, c'est tout.
On va accueillir messieurs Ahmed, supporter parisien, qui est avec nous au 32-16 sur RMC pour débriefer ce nouveau succès parisien. Bonsoir Ahmed.
Bonsoir, merci de donner la parole.
Ahmed, on est ravis de t'avoir. J'imagine que tu es content, le PSG engrange les titres. Et puis on a vu un bon match de foot aussi, ça a fait plaisir. Franchement, on est le 12 août, c'est la reprise. Et déjà, on a eu une soirée sympa à regarder.
Ouais, c'était un beau match. Les deux équipes ne se cachaient pas. Les deux équipes jouaient attaque-défense. C'était vraiment beau à voir. Et moi, je suis vraiment impressionné de la qualité physique des joueurs parisiens. On sent qu'il y a eu des vacances, mais il n'y a pas vraiment eu des vacances. On sent que c'est des pros. Et ils voulaient se gagner ce titre. Et je trouve que même Vitinha, tout le monde, Neves, tout le monde courait. Je suis étonné de leur niveau physique. Moi, je m'attendais à voir une équipe à la ramasse. Et à la mi-temps, ils font rentrer 5 joueurs parce qu'ils sont à l'agonie. Et pas du tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une équipe. Ouais, c'est les affamés. C'est les affamés. Et quand ils viennent, ils font pas semblant. Je pense qu'ils aiment leur entraîneur, ils aiment leur club et ils font les choses bien, quoi. C'est impressionnant. Au moins. Vraiment, je suis vraiment impressionné de leur niveau physique, là au mois d'août.
Mais plus, je comprends ce que tu dis sur la condition physique. Moi, ce qui m'impressionne plus, parce que dans le sport de haut niveau, ce qui distingue les champions des autres, c'est la volonté de toujours vouloir gagner. C'est-à-dire de toujours enchaîner, de jamais être lassé de la victoire. Les grands champions dans le tennis, ceux qui enchaînent les séries de grands chelems, on a eu des très grands champions de tennis qui, quand ils en ont gagné 2, 3, bon, derrière, ils ont un petit peu lâché, ils ont moins travaillé, ils ont été moins performants. Et t'as ceux, je ne vais pas les citer, on les connaît, ceux qui ont atteint les 20 grands chelems parce qu'ils avaient toujours cette envie de gagner. Là, le PSG, ils sont de cette trempe-là. C'était pas lassé de la victoire. En fait, t'as une compétition qui s'offre à toi. T'as une coupe au bout, on est à fond, on va la gagner. Tu parles de conditions physiques, mais à la limite, en fait, je ne sais même pas, moi je ne crois pas qu'il soit dans une condition physique optimale, mais sur le match de ce soir, sur le temps qu'il aurait demandé, que Luis Enrique leur a demandé de jouer sur le terrain, ils ont été à fond. Ouais. Tu sais, c'est comme toi, si tu fais un match de foot ou de n'importe quel sport que tu pratiques, t'es peut-être pas vachement bien, tu t'es peut-être pas réveillé comme il faut le matin, t'as pas bien, mais tu vas tout donner à fond. Les ballons sur le match. Et ben eux, c'est ce qu'ils ont fait. Je suis pas sûr qu'ils soient dans une condition optimale, mais en tout cas, ils donnent tout à chaque fois quand ils sont sur le terrain. C'est la marque de fabrique de cette équipe. Si tu ajoutes à ça la confiance qu'ils ont en eux, ça donne cette équipe ultra performante en permanence.
Ouais, je te rejoins, Daniel, par rapport à ça. On en a vu, hein. On a souvent des exemples de champions du monde qui, après avoir gagné, la saison suivante bien est sûr. Difficile parce que c'est naturel, en fait, de relâcher. Et c'est vrai que côté parisien, alors, est-ce qu'il faut donner du crédit à Luis Enrique par rapport à ça? Mais il a vraiment mis en place. Je pense que c'est une lui mentalité qui maintient ça avec de gagnant, c'est ça. Clair. Je pense qu'il faut mettre ça en avant parce que c'est pas facile de continuer à jouer, de continuer à vouloir gagner alors que t'as déjà tout gagné. Le naturel humain voudrait que tu t'as tendance à lever le pied. C'est pas forcément le cas avec le Paris Saint-Germain. Ils l'ont montré encore ce soir.
Ahmed,
il y a beaucoup d'entraîneurs qui expliquaient que à la fin d'une saison où t'as gagné, le plus important c'était d'observer ton groupe et te dire et de faire en gros la liste comme si tu cochais sur un cahier. Lui il a encore faim, lui il a moins faim.
Exactement.
Même s'il est encore bon, même s'il est encore dans le cœur des gens, même s'il a été excellent, ouais, mais je sens qu'il va avoir moins faim, donc on va le laisser partir. Là t'as l'impression que Luis Enrique il regarde les joueurs. Et il constate que tous, il peut continuer avec eux. C'est pour ça qu'on n'a pas de grands bouleversements dans l'équipe, parce qu'il se dit, les mecs là, ils veulent continuer. Ils ont encore envie de gagner. C'est les propos de Doué qu'on a entendus. C'est ceux de Dembélé. C'est ceux de Marquinhos qui l'a dit. Lui, il pourrait être... tu vois, maintenant, il a un peu plus de 30 ans. Il pourrait dire, j'ai envie d'un peu de baisser le pied. J'ai envie d'être un peu tranquille. Non, les mecs, ils ont toujours la dalle. Ça, c'est entretenu. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable pour moi dans le haut niveau. Je ne sais même pas si aujourd'hui, il y a une équipe en Europe. Il va falloir qu'ils me le montrent. En tout cas, l'année dernière, je pense que le Bayern était une très belle équipe. Et en plus, vraiment, ils avaient cette envie et cette conviction que c'était leur année. Il y avait Arsenal également. Mais il n'y en avait pas beaucoup d'autres qui dégageaient la même envie. Cette année, il va falloir voir, il va falloir observer le plateau européen pour voir quelle équipe est capable de venir emmerder le PSG. Parce que sinon, ils vont le faire, leur triplé, hein. Parce qu'il va falloir vraiment aller les bouger, aller les sortir.
On va écouter justement Luis Enrique, l'entraîneur qui réussit au PSG, qui a soif de victoire et qui veut encore gagner. On l'écoute juste après la victoire acquise ce soir et ce nouveau trophée.
Ce que je pense, c'est tellement difficile de gagner de manière consécutive que quand tu as dans ce moment, il faut profiter, il faut être ambitieux, il faut être professionnel pour cesser à gagner de nouveau tout. C'est ça notre objectif.
Ahmed, on entend voilà. Luis Enrique au micro de Canal+, qui te dit, moi je veux faire le triplé, c'est ça qu'il annonce ce soir.
Bien sûr, bien sûr.
Non, j'ai demandé à Ahmed, Daniel, on va t'écouter dans quelques secondes, Ahmed est encore avec nous, il nous appelle au 32-16. Ahmed.
Moi j'ai 56 ans, donc j'ai connu le PSG en 82 quand on bat Saint-Etienne, donc j'attendais la Ligue des Champions une fois, là ils l'ont fait deux fois, je vous dis pas, j'étais aux anges, donc oui, un triplé... Je pense qu'ils ont tous un peu ça dans la tête. Il ne faut pas être trop prétentieux non plus, parce que le Bayern sera encore présent, je pense, cette année. Mais ils ont les moyens, ils ont l'équipe. Il sait qu'il a les joueurs qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et oui, je pense que lui, dans sa tête, de toute façon, c'est un compétiteur. Et il va leur mettre dans la tête qu'il faut aller la chercher trois fois. Et ils n'ont pas la pression, surtout par rapport aux autres. Ils ont déjà gagné deux fois de suite. Donc, ils vont jouer relâchés cette année par rapport à d'autres équipes qui... comme Arsenal, par exemple, qui cherche absolument à en prendre une. Donc, ouais, je suis pas du tout étonné. Mais je pense que c'est le contrat qui passe avec eux tous, c'est de leur dire rien n'est fait. Hein, on oublie ce qu'on a fait l'année dernière. Et cette année, on va essayer de garder notre trophée et de faire le triplé. Mais ce serait un truc incroyable. Hein, faire un triplé en Ligue 2.
Bien sûr. Merci Ahmed d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Belle soirée à toi. Daniel, c'est vrai que depuis le mois de mai, on n'entend que ça, cet objectif d'aller chercher le triplé. Dans la tête de l'entraîneur, dans le staff, dans les joueurs, c'est quelque chose qui est vraiment envisageable et qu'ils ont envie d'aller chercher tous ensemble. On pourrait se dire, c'est quand même un peu prématuré alors que la saison a même pas commencé. Et pourtant, eux, ils sont déjà dans cet objectif-là et dans cette course.
Parce qu'ils savent que ça existe, que ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, par une équipe qui leur parle, par une équipe contre qui ils ont souffert dans un passé récent, avec un entraîneur qui est très connu en France.
Le Real.
Et c'est quelque chose qui existe. Ça a été fait, le Real, 16-17-18. Et ils se disent, ben voilà, nous on peut essayer également de tenter ce truc-là et de réaliser quelque chose qui n'est pas unique dans l'histoire du football, mais qui a été fait par un grand club européen. Et nous, maintenant, on est devenu un grand club européen et on peut faire ce truc-là aussi. Je la comprends, cette motivation. Je comprends cet objectif-là, en fait.
Ça serait la première fois dans la nouvelle version, parce qu'on rappelle que maintenant, évidemment, la phase de groupe est différente au niveau de la Ligue des Champions. Messieurs, qui vous a plu dans ce 11 de départ? On a dit qu'il avait sorti vraiment une équipe compétitive. Et qu'est-ce que vous avez pensé d'Akliouche aussi? C'était sa première, il a eu que 45 minutes, l'ancien monégasque. Maxime?
Bah écoute, Akliouche, vas-y Daniel.
Non, vas-y.
Non, je disais, donc Akliouche, il a été un petit peu en dessous, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est aussi un début pour le nouveau Parisien? C'est jamais facile de rentrer dans une équipe où est-ce que tu ne maîtrises pas forcément tous les automatismes? Est-ce que c'était peut-être prévu aussi que Dembélé allait rentrer à la mi-temps? Peut-être que c'était un accord avec Luis Enrique, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'il a été un petit peu en dessous dans un rôle qui n'est pas vraiment le sien en tant que numéro 9, un faux numéro 9. Alors, c'est vrai qu'il a beaucoup désonné. C'était vraiment un système qui était hybride. On voyait des fois Désiré Doué dans l'axe et puis Akliouche sur le côté. Mais c'est vrai qu'il a été un petit peu en dessous physiquement. Je l'ai trouvé un petit peu emprunté. Alors, est-ce que c'est aussi dû au manque de préparation physique, hein, comme le reste de beaucoup de joueurs? Mais c'est vrai que de ce 11 de départ, c'était peut-être celui qui était un petit peu moins en vue. Après, il est tombé aussi sur un bon Madsen. Hein. Ça, c'est aussi, on a parlé des joueurs parisiens, mais le joueur d'Aston Villa à l'arrière gauche a été très très bon en première mi-temps. Donc voilà, je me fais pas trop de mourant par rapport à sa prestation, parce qu'encore une fois, il va monter en puissance. C'est un nouveau club, c'est un palier au corps supérieur. On connaît les qualités de joueur. Il nous l'a montré à Monaco, il nous l'a montré avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est une histoire aussi de prendre un petit peu ses marques. Mais sur ce match-là, c'est peut-être le moins bon Parisien, en tout cas sur les 45 premières minutes, en effet.
Daniel, par rapport à Akliouche.
Juste avant de parler d'Akliouche, soyons tous rassurés, tout va bien. Vincent Labrune, la mascotte du PSG, est bien sur la pelouse en train de fêter le titre avec son club fétiche.
Ah bon? Mais j'ai pas vu les images. J'ai vu Nasser sur la pelouse, mais j'ai pas vu Vincent Labrune.
Si, il est là. T'inquiète, il est forcément derrière Nasser toujours, hein, parce qu'il faut qu'il lui porte son sac. Mais il est là. Hein. Il a quitté sa piscine de Saint-Rémy-de-Provence pour aller à Salzbourg. Il a mis un petit coup de bagnole et il est allé, mais il est bien là. Bon, évidemment, il n'est jamais dans les locaux à Paris, parce que ça, il n'y est jamais. Mais quand il y a le PSG qui joue, ça, il est là, il n'y a pas de problème. Donc tout va bien, soyez rassurés. Vincent Brune est là. Magnifique bronzage. Il est au soutien du PSG comme d'habitude. À Cliouche. En fait, c'est marrant de le voir évidemment avec le nouveau maillot. Et ça m'a, il m'a pas semblé porter un maillot qui n'est pas fait pour lui ou qui sera trop grand pour lui. Il est, oui, c'est vrai, moins bon sur cette mi-temps où il a joué. Je comprends ce que dit Max, mais à la limite. S'il avait été très bon sur la première mi-temps, presque ça m'aurait étonné. Moi, ce que je voulais voir de lui, c'est est-ce que tu as l'impression de porter un maillot qui n'est pas fait pour toi, de jouer dans une équipe qui joue un football qui n'est pas le tien. C'était ça que j'avais envie de voir. Et je n'ai pas senti que c'était ça. En tout cas, je n'ai pas eu ce sentiment. Je l'ai vu bouger, je l'ai vu faire des appels. Pas prendre beaucoup d'initiatives. Il est encore timide, il va falloir qu'il se fasse...
Mais il ne s'est pas caché, il réclamait le ballon, etc. Hein, quand même.
C'est ça. C'est ça, il était là, il était présent, il avait envie, il a fait des appels, il a demandé le ballon. Encore une fois, j'avais pas l'impression de voir un corps étranger dans cette équipe. Et ça, je pense que à ce stade-là de sa carrière et de ce transfert qui vient d'être fait, je pense que la principale remarque et la principale chose que j'ai envie de dire, c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est un corps étranger à cette équipe. C'est plutôt positif.
On se croirait en SVT, un corps étranger. On va continuer de parler du PSG dans quelques instants.
C'était très très fort en SVT.
J'ai eu 4 au bac. Donc, si tu veux.
Ça te regarde.
C'était pas ma matière, clairement. Toi, t'as eu combien ? Tu excellais en SVT ?
Oui, absolument.
Ah oui, absolument. Tu aimais dépecer des grenouilles, etc. Oui, ça m'étonne pas de toi. Le PSG.
Absolument.
Ouais, un peu psychopathe.
Pas que j'ai failli être médecin. Hein.
Dans la vie, on faillit pas être médecin. C'est soit on réussit sa première année et après on continue, soit on tente pas. Tu vois, je dirais, c'est pas aléatoire comme carrière. C'est pas, je me retrouve médecin par le plus grand des hasards, quoi.
Écoute, c'est comme ça. J'avais envie de me lancer dans un mytho. Hein, tu fais ce que tu veux avec.
Ouais, n'est-ce pas. Le PSG donc qui s'est imposé 2-1 face à Aston Villa. On sera avec Adama, supporter parisien, juste après une courte pause. On est ensemble jusqu'à minuit en direct sur RMC. À tout de suite.
Adem et maintenant Adama, tu vas rajouter une lettre à chaque fois.
Bah écoute, il semblerait. On va demander à Adama dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC jusqu'à 23h31. Non, on est ensemble jusqu'à minuit et il est 23h31 avec Daniel Riolo, avec Maxime Chano, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et également sur le répondeur Adama qui est avec nous. Il nous a appelé et on est ravis de l'accueillir sur RMC. Bonsoir Adama.
Bonsoir à tous.
C'est avec nous pour débriefer donc le succès en Supercoupe du PSG. On rappelle, victoire de 2-1 face à Aston Villa. Gvara a ouvert le score, Majo a égalisé et c'est Désiré Doué qui a mis le but de la victoire. Un très joli but de la part de l'international français. Adama, toi tu voulais parler de la performance de Zaïre Emery.
Ouais, alors encore une fois, très content du PSG, c'est mon cardiologue aussi qui les remercie depuis 2 ans. Beaucoup de sérénité, on va dire, dans leur prestation et la maîtrise. Et en ce qui concerne Zaïre Emery, c'est surtout que c'est un peu le joueur de l'ombre qui aujourd'hui il a banalisé, on va dire, les grosses prestations. L'année dernière, il est présent, on va dire, à droite, et il est présent au milieu de terrain. Et aujourd'hui, il était sur tous les ballons, il était en couverture pour Hakimi dès qu'il montait, mais ça c'est dans le schéma de jeu. Mais c'est surtout, on parle d'un joueur qui a tout juste 20 ans et qui aujourd'hui est quasi titulaire au PSG. Et il n'y a pas de match où on va dire il est moyen plus. C'est-à-dire il est présent dans les duels, il était déjà là. Il sort d'une Coupe du Monde où il a pas beaucoup joué, on pourrait dire qu'il pourrait traîner la patte. Et au final, il est présent, il a la hargne et derrière, ça apporte beaucoup de sérénité au milieu de terrain. Ou derrière, selon le type de match dont on a besoin, c'est plutôt un Zaïre Emery qu'il faut qu'un Fabien Ruiz, parce que là, il allait y avoir des duels. Ils ont déjà joué contre Aston Villa et à chaque fois, il a répondu présent.
Mais pourquoi tu veux forcément l'opposer à quelqu'un en disant il faut qu'il soit préféré à tel ou à tel? Zaïre Emery, c'est peut-être un de ceux qui a le plus joué l'année dernière au PSG.
Clairement.
Que dans l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe type, mais encore faut-il que ce concept existe encore réellement dans le foot. Alors, dans l'équipe qui démarre la finale de la Ligue des Champions, ok, il ne démarre pas parce que c'est Fabien Ruiz, Neves, Vitinha, le milieu titulaire. Et moi aussi, je ferais démarrer ce milieu. Mais il n'empêche qu'à partir du moment où on considère que le football, c'est jamais, et surtout plus maintenant, 11 mecs, Zaïre Emery, il est dans tous mes plans, tous les jours, dans toutes les équipes, je le prends, ce mec. Si tu me parles du match de ce soir, tout ce que tu as dit est vrai, Mais moi, je vais te dire un truc. Ce gars-là, à un moment précis dans le match, il a empêché le 2-2.
Ouais, notamment sur le tacle. Là,
c'est ce qui s'appelle. C'est pas notamment sur le tacle, c'est précisément ce tacle-là.
Exactement.
Virtuellement, en fait, normalement, il y a 2-2. Ce match, il devrait y avoir 2-2. Lui, c'est ce qui s'appelle un geste décisif, qui vaut un but, qui vaut, je sais pas, une reprise de volée et tout. Son tacle, la façon dont il se jette, en plus avec l'intelligence de lever un petit peu, ça empêche le 2-2. Mais parce que je suis sûr qu'il y a 2-2 à ce moment-là.
Ça montre
ce sens du sacrifice, ce sens du devoir qu'il a tout le temps. Ce mec-là, moi, je me fous de savoir qu'il n'ait pas démarré la finale. Ou qu'il soit
mais Daniel,
peut-être...
ça, c'est ta position. Lui, c'est dur à encaisser quand même à la longue.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Vous avez une vision qui est rétrograde. Ça n'existe plus, ce que vous dites. Ça n'existe plus, la frustration de machin. C'est le mec qui a le plus joué l'année dernière.
Mais il a moins de problèmes parce qu'il a bénéficié de l'absence d'Hakimi, que ce soit sa blessure ou notamment son départ à la CAN.
Mais c'est comme ça.
Mais
c'est comme
ça,
le foot.
Tu ne peux pas l'enlever lorsque tu dois jouer une finale et que tu es sur
c'est
sur
pas vrai, c'est le foot d'avant
si,
ça c'est
chance,
le foot d'avant
chance,
mais il a joué, il est rentré il les a ces minutes
il arrivera à un moment donné Daniel
attendez Adama
non,
écoute Maxime
c'est un foot rétrograde
voilà, et je suis d'accord avec toi peut-être pas Zaïre Emery parce qu'en effet il a cette mentalité parce qu'il est formé au club et surtout parce qu'il est encore très jeune mais tu m'enlèveras pas l'idée que tôt ou tard il va vouloir justement peut-être changer de statut parce que c'est naturel à partir du moment où tu commences à avoir des prétentions parce que t'étais très bon. Mais son statut, c'est de commencer une finale de Ligue des Champions.
À la 95e minute.
Daniel.
Je ne suis pas
et là, je te l'accorde, il est précieux pour le vestiaire parisien, il est précieux pour Luis Enrique, parce que tu peux le faire sortir de ton 11 de départ, et ça ne pose pas de soucis. Et ça, c'est à mettre en avant, d'avoir des joueurs comme ça, des joueurs de vestiaire, c'est exceptionnel. Mais tu ne m'enleveras pas l'idée que c'est aussi parce que c'est dû à son âge, c'est aussi parce qu'il y a une très bonne éducation derrière pour ce bonhomme.
Mais pas du tout. C'est aussi dû que le milieu de terrain, Vitinha, Neves, Ruiz, c'est le meilleur milieu de terrain en Europe, et que n'importe quel entraîneur, moi, je fais démarrer ce milieu.
Et la question,
je ne le fais pas démarrer.
Si ça devait durer comme ça pendant 3-4 ans, est-ce que tu ne penses pas que Zaïre Emery, tôt ou tard, il voudrait peut-être aller voir ailleurs pour justement avoir ce statut.
Mais pourquoi veux-tu qu'il aille voir ailleurs, puisque c'est le joueur qui joue le plus.
Mais
c'est
non, mais
joueur
parce qui que joue l'an le plus, dernier, je il joue tout comme le temps. L'a dit Maxime,
il joue tout le temps.
Très longtemps.
Ouais, il a aussi beaucoup joué arrière-droit, Daniel. Il arrive à un moment aussi,
mais,
il y a aussi une place
importe,
en équipe de France qui est en jeu.
Mais il joue. Si il ce qui est important, c'est d'être dans une équipe qui gagne.
Oui, mais
tu es dans une équipe qui gagne. Tu joues. T'es champion d'Europe deux fois. C'est le club qui t'a formé. Mais qu'est-ce que tu veux? Il va se plaindre de quoi? Il va se plaindre de quoi?
C'est la même chose. Parle-en à Barcola. Aujourd'hui, Barcola a énormément joué aussi. Il a peut-être juste envie d'avoir un statut qui est différent. C'est naturel, Daniel. Et d'autant plus que t'as une place en équipe de France qui est en jeu derrière.
Parce que là, aujourd'hui, en équipe de France, il n'existe pas, Daniel. La Coupe du Monde, il n'a pas joué.
Il a pas joué à cause de quoi? À cause du fait qu'il soit pas bon, qu'il ait pas démarré la finale de Ligue des Champions?
Mais son statut,
il par rapport
quoi. Il a pas joué parce qu'au milieu de terrain, il y a des mecs devant lui, c'est tout.
Oui, non, mais d'accord, mais donc lui, peut-être qu'il doit essayer d'aller chercher quelque chose pour pouvoir devenir aussi un titulaire en équipe de France.
Qu'est-ce qu'il va chercher de plus que tous les matchs au PSG?
Tu le considères comme un titulaire au Paris Saint-Germain?
Adama, on t'écoute.
Mais oui. Pour moi, il est titulaire.
On écoute Adama, s'il vous plaît.
Il faut vraiment faire une distinction entre l'équipe de France où il y a des statuts et on a bien vu avec Tchouaméni qui a joué, où Deschamps il avait son plan et on savait que Zaïre Emery était numéro 3-4 sur le banc et que ça lui-même le savait. Au PSG, Zaïre Emery, il sait que quoi qu'il arrive, aujourd'hui avec son niveau, il va faire ses 30 à 40 matchs. Et c'est pas un joueur qui va se dire parce que je suis pas titulaire, je vais vouloir partir parce que le temps de jeu. Ah non, c'est une analyse qu'on fait.
Okay.
C'est une analyse qu'on fait. Le temps de jeu qu'il a, les matchs qu'il fait à son âge. Beaucoup de joueurs signeraient aujourd'hui pour avoir ce temps de jeu, que ce soit arrière-droit, que ce soit au milieu
évidemment
de terrain, que ce soit
évidemment
remplaçant en rentrant. Aujourd'hui, dans le football, on ne peut pas dire je veux un statut de titulaire.
Donc le mec, parce qu'il veut un statut, va aller dans une équipe moins forte. C'est ça votre idée. C'est comme ça que vous voyez le football. Vous voyez le football comme ça.
Ça n'a rien à voir. On parle aujourd'hui
qu'il va dans une équipe moins forte.
On est en train de te dire qu'aujourd'hui, il peut peut-être prétendre à quelque chose de différent. Parce que si jamais.
Où il va prétendre? Il va prétendre où ça?
Parce que tu ne penses pas qu'il joue dans quel club en Europe? Non, c'est une question dans ce cas-là.
Non, mais dans quel grand club il
et
va
dans quelle
venir
équipe?
Ah d'accord, donc tu penses que Zaïre Emery, donc on est d'accord, donc si Zaïre Emery est donc un titulaire au Paris Saint-Germain d'après Daniel, il n'est pas capable d'être titulaire ailleurs?
Il peut être titulaire.
Bon, bah alors, la question
est... Pourquoi il irait ailleurs?
La question, alors.
titulaire indiscutable. On parle de ça parce qu'il est dans la rotation.
Et dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Dans tous les clubs.
Et quand il s'agit de jouer une finale, le 11 titulaire est forcément le 11 type de l'entraîneur. Et je peux comprendre où Zaïre Emery, alors soi-disant, parce que dans la tête de notre auditeur, Zaïre Emery est content de sa situation. Tôt ou tard, c'est normal, c'est naturel. Tu prétends à quelque chose d'autre. On l'a vu avec énormément de joueurs et énormément de jeunes joueurs. La question est la suivante aujourd'hui.
Messieurs,
triomphe
au direct.
Nasser
El-Ralaifi, président du PSG, est en zone mixte. On l'écoute
en direct
de Salzbourg.
On fait back-to-back encore sur Balkan. C'est quelque chose de magnifique. La mentalité culture gagnée. Chaque match, chaque jour, entraîner le maximum. Je sais, les joueurs étaient morts. On n'a pas fait beaucoup de préparation, spécialement les joueurs français ou aussi les portugais, même les brésiliens. Mais honnêtement, là, le match parfait pour nous, avec la condition qu'on a. On est très fiers qu'on continue comme ça.
Vous avez réagi, en fait, le PSG gagne tout en Europe depuis deux ans.
Non, c'est pas facile pour gagner. Oui, pour vous dire ça, c'est facile. Mais pour gagner, c'est pas facile. C'est la vérité, on a mentalité pour les joueurs, pour gagner. Le culture, comme je dis, le coach, l'ambiance, le supporter. Même vous, la vérité, le média, vous mettre l'équipe de un niveau mentalement prêt pour gagner. Aston Villa, les bonnes équipes, les préparer même avant nous. Je pense qu'on a fait un match bien, mais on va continuer. C'est le commence, on travaille, on a match en 4 jours. On continue le travail.
Nasser El-Ralaifi qui était en conférence de presse après donc le succès.
On peut difficilement s'en passer là. Si tu peux me dire ce qu'il a dit, je veux bien.
En tout cas, il s'est présenté devant les journalistes après ce nouveau succès en Supercoupe. Adama, juste le mot de la fin. Toi, par rapport à Zaïre Emery, parce que tu voulais parler effectivement du joueur formé au PSG, tu n'es pas inquiet qu'il arrive à un moment à être frustré. Tu penses que ce qu'il vit actuellement au PSG, ça le nourrit complètement, ça lui convient et qu'il ne va pas espérer plus? Toi, t'es pas inquiet?
À l'instant T, dans ce qu'il montre, dans ses attitudes et dans les matchs qu'il fait, j'ai pas d'inquiétude par rapport à son statut dans ce PSG-là, où il sait qu'il va jouer et que derrière, il va faire aussi des matchs importants, même s'il fait pas la finale, il fait une grande campagne de Ligue des Champions. Il peut y avoir une frustration comme pour 100% des joueurs, voilà. Mais je pense que c'est vraiment le type d'état d'esprit qu'il a, qu'il faut à ce PSG-là.
Parfait. Juste un mot, Daniel, par rapport à Barcola. On a vu qu'il n'était pas entré en jeu. Évidemment, Luis Enrique, par rapport à ses choix, ça veut dire quelque chose. Barcola, le PSG, ça s'arrête?
Lui, il sent qu'il est différent. Lui, il estime qu'il peut aller ailleurs et être titulaire dans un autre club. C'est son choix de carrière. Mais ceux qui ont ce genre de choix de carrière qui est basé sur une frustration... Derrière, ça ne veut pas dire qu'ils s'éclatent et qu'ils trouvent leur espace et une place de titulaire ailleurs. Barcola, il aura tout à reconstruire maintenant. Il a tout à refaire dans le club où il ira. Bon, on parle de Liverpool, c'est probablement là-bas qu'il ira. Ben, on verra bien. On verra bien comment il va faire face à la concurrence qui lui sera proposée. Et on verra s'il devient titulaire à Liverpool. Pour moi, c'est pas fait, c'est pas encore fait. On verra bien. Et là, c'est visiblement, ça lui plaisait plus d'être... clairement le mec qui vient après Doué, Dembélé, Gvara, enfin surtout Gvara puisque c'est là qu'était son côté préférentiel. Il va se plaindre de quoi en fait, Barcola? Il a toujours été en dessous de Gvara, on le sait qu'il est en dessous. Bon, ben maintenant il a envie de faire autre chose avec sa carrière, qu'il le fasse. Je pense que ça n'a rien à voir avec Zaïre Emery, rien à voir.
Deux sujets différents, effectivement, mais deux avenirs différents a priori, parce que Luis Enrique l'a dit, il est très content de Zaïre Emery, il avait même dit qu'il était très frustré de ne pas lui avoir offert plus lors de la finale, et on sait que Barcola, lui, a des envies d'ailleurs. Luis Enrique, c'est 17 victoires en 20 matchs le lors des finales, donc c'est absolument exceptionnel. Dans quelques instants, messieurs, on parlera des infos du jour, avec notamment Marseille qui a perdu son gardien, Rulli a signé à Manchester City, Xavi, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, et puis on parlera également du trophée des champions dimanche et du coup de gueule de Daniel Riolo. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Karine Galli.
23h45 en direct sur RMC dans le studio Roland Courbis avec Maxime Chano, avec Daniel Riolo. On vous rappelle que le PSG a gagné la Super Coupe 2-1 face à Aston Villa. Le PSG qui a toujours faim et qui continue d'engranger les trophées. Les informations mercato, roulis donc, ça y est, c'est officiel. Il quitte l'OM pour Manchester City. On parle de 3,5 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat de l'Argentin. Il a 34 ans. Deuxième gardien donc derrière Donnarumma et il va découvrir la Première Ligue. Maxime, fallait que ça s'arrête. Roulis, il avait été très bon la première saison. L'an dernier, c'était plus compliqué. C'est une bonne chose pour les deux parties.
Ben, je suis surtout content pour l'Olympique de Marseille. Hein. J'avais dit que ça serait du bien de voir partir leurs Argentins. Là, Riri, Fifi, Loulou, Medina, Roulis, il manque plus que Balerdi. Mais écoute, c'est top pour lui. Il reste un an de contrat. On savait que c'était aussi un gros salaire. Et puis surtout, numéro 2 à Manchester City. Est-ce que c'est pas le poste rêvé finalement? Tu gagnes tous les matchs, tu prends tes primes, tu t'assois sur le banc, tu joues de temps en temps.
Ça, c'est vraiment un bon joueur choix. Du Luxembourg qui parle.
Bah, que Luxembourg ailleurs, je pense qu'à 34 ans, bon choix pour lui et bon choix pour l'Olympique de Marseille.
Daniel, Marseille n'a plus d'argent après le fiasco de la saison passée, donc là tout le monde part. Roulis qui part, fallait que ça s'arrête.
Ah ben ça, de toute façon, on l'a annoncé dans l'after avant même la Coupe du Monde. On savait que, de toute façon, Marseille, ce serait la grande braderie et que absolument tout le monde est sur le marché. Tant qu'il y a une somme en face, ça part. Bon, bah écoute, là, c'est surtout savoir qui va prendre ça, qui sera dans le but de l'OM.
Maintenant, ben Delange, question... hein, c'est la tendance.
Attention, parce que Delange, s'il est demandé, il partira aussi. Hein. À un moment, il y avait des prétendants pour Delange. Donc, non, c'est inquiétant pour l'OM, je pense quand même. Après, oui, ça sanctionne des choix sur ces dernières années, des dépenses folles qui ont été mises malheureusement en face d'une obligation de Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions, elle n'est pas venue. Donc, voilà, maintenant, c'est un club qui repart quasiment de zéro. Bon. En même temps, l'OM est assez habitué. Globalement, si on fait une moyenne depuis 2000, ça doit être tous les 3 ans que le club repart à zéro. Donc, voilà, là, ça repart à zéro. Roulis, je sais pas. Moi, je vais dire moyen plus son passage à l'OM.
Première saison, bonne saison, bonne surprise. Et l'an dernier, il a quand même vraiment baissé.
Bonne saison, mais pas non plus. Tu vas mettre le poster dans ta chambre, quoi.
Oh ben non, encore heureux. Après si peu de temps.
Donc, voilà. Oui. Non mais voilà, tu vois, c'est ça, il va pas laisser un souvenir impérissable.
Oui, c'est pas Barthez à l'OM, on est d'accord.
Donc vu qu'il était à un an de la fin du contrat, on t'en propose, tu prends 3 barres et puis voilà quoi.
Franchement, c'est bien vendu.
C'est de l'ange chou.
Gauthier Loris, ex-Le Havre, qui signe pour 2 ans à Brest, le défenseur de 31 ans s'engage donc avec le SB 29. Il était libre, c'est officiel pour Lukaku. On en avait parlé hier, donc il est bien un joueur du Fenerbahçe. Le joueur de 33 ans a été recruté pour environ 6 millions d'euros. À voir s'il sera disponible dès mardi, parce que mardi, on rappelle, il y a le match aller pour les barrages de la Ligue des Champions entre le Fenerbahçe et Lyon. Bonne nouvelle pour le Fener, et ça va être quand même un souci pour les Lyonnais, soit à l'aller, soit retour, soit lors des deux matchs, mais effectivement, c'est quand même un renfort.
S'il peut jouer,
il va bien jouer quelques minutes sur les deux matchs, non?
Oui, bah quand tu connais son physique, à mon avis, en venant de vacances comme ça, je ne suis pas convaincu.
Il faut qu'il se mette en route, quand même, Lukaku. Moi, j'aime beaucoup ce joueur.
Tout le monde s'est mis en route très vite, les gars. Il a tout de suite marqué.
En même temps, il s'est reposé toute l'année avec le Napoli. Donc, je continue à dire que la Turquie est le cimetière des joueurs d'Europe, mais bon, après, je sais que ça a fait bondir certains. Bravo au Fener qui récupère encore un joueur qui est en fin de
course. Avant le cimetière, t'as la maison de repos quand même.
Ouais, on va dire entre les deux. Et avant ça, t'as la MLS.
T'es dur. Si vous voulez avoir des informations de Laurent Niécolin, eh ben, il a donné une interview exclusive sur RMC au micro de Julien Landry. Le président de Montpellier parle du fait que finalement, la famille Niécolin a décidé de rester au club. Ils n'ont pas vendu le club. Des nouveaux objectifs de cette nouvelle saison en Ligue 2. Donc, je vous invite à aller sur rmcsport.fr pour découvrir cette interview. Et là, messieurs, on va parler de Xavi. Voilà. Xavi est le sélectionneur des Pays-Bas. Contrat de 4 ans pour l'ancien entraîneur du Barça. Il était sans poste depuis 2 ans. On rappelle qu'il remplace Coman, qui a quitté son poste après l'échec de la dernière Coupe du Monde. Les Pays-Bas ont été sortis en 16e par le Maroc. Alors, dans la journée, on parlait effectivement de Roberto Martinez, qui a quand même bien planté la Belgique, mais aussi le Portugal. Et finalement, c'est Xavi. Mais moi, je ne comprends pas non plus ce choix. Alors, Roberto Martinez, c'est affreux. Mais pourquoi Xavi? Pourquoi un étranger?
Moi, j'aime pas quand dans les sélections, justement, on prend un entraîneur étranger.
Moi aussi, je déteste.
Pense que ça met à mal un peu ton football, ta formation, le fait que tu sois pas capable de trouver quelqu'un qui te représente. Bon, ils ont fait ce choix. Les Anglais l'ont fait pendant longtemps. Ça existe. Encore une fois, j'aime pas trop l'idée. Maintenant, Xabi, parce que c'est lui, parce que son idée du football, j'ai envie que ça marche quand même. Il entretient ce lien entre les Catalans et les Hollandais. La route a été ouverte par Cruyff dans les années 70, donc il y a un lien très fort entre ce pays et les Catalans. Chabi va y aller. S'il arrive à assembler les joueurs qu'on a vus pendant la Coupe du Monde, on n'est plus dans le talent néerlandais qu'on a eu à une époque, hein, puisque justement c'était un football qui ressemblait au football du Barça. Enfin, il y avait une espèce de familiarité. Il n'y a plus tellement de joueurs comme ça. Enfin, il y en a encore quelques-uns, donc il va falloir qu'il aille fouiller dans les clubs aux Pays-Bas. On a quand même encore une formation qui est extraordinaire là-bas, avec des vrais joueurs de ballon. Franchement, ce que j'ai vu des Pays-Bas sur les dernières années, on était loin du football traditionnel néerlandais, donc peut-être que lui va réussir à redonner quelque chose à cette équipe-là. En tout cas, moi, les mecs comme lui, j'ai envie que ça marche, parce qu'ils ont eu, c'était tellement beaux joueurs de foot, ils ont des telles belles idées sur le football que j'ai envie que ça marche, quoi. Voilà. Ouais.
Je suis d'accord avec Daniel, je pense que tu as bien résumé. Il y a quand même un lien fort entre les Catalans et les Pays-Bas. Et puis surtout actuellement, dans un football moderne où l'Espagne est l'exemple à suivre, finalement, aller chercher un entraîneur espagnol, c'est peut-être la suite logique. Mais là, je rejoins encore une fois Daniel. J'aime pas trop prendre des entraîneurs étrangers pour des équipes nationales. Après, on va voir ce que ça va donner. Ouais, je reste perplexe. Même si j'aime le joueur, enfin j'ai aimé le joueur et j'ai aimé aussi l'entraîneur, son passage à Barcelone.
Oui, voilà, c'est ça aussi. Est-ce qu'on n'a pas
après,
juste
si on avait
l'image
pris d'autres Hollandais, on aurait dit. De quoi tu dis, pardon?
Est-ce qu'on n'a pas l'image du trio magique au milieu du Barça? Mais quand tu l'as vu entraîneur du Barça, est-ce que tu étais le cul par terre, non?
Non, mais je vois pas. Enfin, si tu avais pris les entraîneurs néerlandais qui sont disponibles, ils restent sur des mauvaises expériences en club. Donc on dit ah oui, mais regarde ce qu'il a fait en club récemment. Donc en fait, le scepticisme, il aurait accompagné n'importe quel mec que tu aurais mis à la tête de la sélection.
C'est vrai.
Donc très honnêtement, je vois pas pourquoi on tenterait. Si on élimine le côté on n'aime pas que ce soit dans les sions, bon bah vas-y, on envoie Chabi, on verra bien ce que tu vas nous proposer. Hein.
On verra effectivement ce que ça va donner. En tout cas, contrat de 4 ans, donc c'est quand même assez longue durée pour l'ancien entraîneur du Barça qui avait notamment gagné la Liga avec son club formateur. Messieurs, on va parler donc du trophée des champions, parce que dimanche, le PSG sera à nouveau sur les terrains. Ça sera à Lens, face à Lens, vainqueur de la Coupe de France. Le PSG qui va essayer de gagner un deuxième titre en l'espace d'une semaine. Et Daniel, tu avais un coup de gueule par rapport à ce trophée des champions et par rapport à l'organisation.
Bah, en fait, il ne vous aura pas échappé qu'on va jouer le Trophée des Champions la dimanche et que la dernière fois, c'était début janvier. C'est
tout vrai. À fait.
C'est logique, non?
Il n'y a rien de logique avec
logique,
la LFP.
N'est-ce pas? Voilà, non mais c'est. Bah écoute, tu me tends une perche et une passe décisive. C'est que j'ai lu quand même cette semaine là de pas mal de polémiques. Le CUP boycotte le match. Pourquoi ça joue à Lens? Pourquoi le public peut pas venir? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On cherche des fautifs. Ah, mais pourquoi vous vous êtes pas élevé pour critiquer ça, machin? Mais en fait, il y a qu'un seul responsable à ce bordel. C'est la LFP. L'année dernière, ils ont pas été foutus de l'organiser en été. Parce qu'ils ne trouvaient pas d'endroit, parce que le PSG n'était pas dispo, parce que comme le PSG avait joué le Mondial des clubs et qu'il y avait la Super Coupe d'Europe, enfin bon, bref, ils ne pouvaient pas parce que ça faisait trop de matchs. Donc le PSG a appelé la mascotte, Vincent Labrune, là, l'Orléanais. Ouais, non, on ne peut pas jouer maintenant, tu peux le décaler. Bon, allez, on le décale. On va jouer où? Ah, on va jouer chez les copains du Qatar. Ah, on ne peut pas aller à Doha, on l'a déjà fait, machin. Bon, on va aller à Koweït. Bon, c'est toujours organisé n'importe comment. Mais si ça vous emmerde autant, ce trophée des champions, mais on arrête de le faire. C'était soi-disant un élément de promotion. On a joué à l'étranger pas mal de fois ce trophée des champions parce que ça faisait promo un peu du foot français. Bon, finalement, on s'est aperçu que ça ne servait à rien du tout, si ce n'est à mettre un petit peu de millions par les temps qui courent, c'est pas plus mal, dans la poche des deux clubs qui participent. Et c'était l'idée de départ parce qu'il y avait trois propositions. L'histoire, c'est un peu longue, tu m'arrêtes, hein, Karine, j'ai pas vu le timing. Mais il y avait trois propositions, c'était Abidjan, Congo-Brazza et jouer en France. Les deux destinations africaines, elles proposaient, mine de rien, 1 million dans la poche des deux clubs. Bon, finalement, les deux clubs ont dit 1 million, on s'en foutait un peu parce que c'était compliqué d'aller jouer en Afrique pour la préparation, tout ça. Personne n'en avait réellement envie. Mais c'est le 29 avril, quand même, qu'on a pris la décision du bordel qui va se jouer dimanche. En mars, juste avant de prendre la décision, on avait fait une réunion où on avait sondé les clubs. Il y avait le PSG qui était là, il y avait Lens, il y avait Toulouse, il y avait Nice et Strasbourg. C'était ceux qui pouvaient encore gagner éventuellement la Coupe de France. Parce que pour le championnat, c'était bouclé, c'était forcément le PSG. ils se font tous une petite réunion pour finalement aboutir le 3 juin à quelle solution on joue en France et comment on fait entre PSG et Lens. Bon, on va faire un tirage au sort. Enfin, vous vous rendez compte ou pas? On fait un tirage au sort. Parce que Stade de France, qui était une solution un petit peu naturelle, bon, ben, ça ne fait pas Stade de France parce que il y avait des travaux, enfin bref, on ne pouvait pas y aller. Et donc, la LFP dit, vous vous démerdez entre vous. Vous ne trouvez pas ça hallucinant?
Non, je suis d'accord avec
l'organisateur, celui qui doit faire, celui qui doit faire que la Ligue 1 soit mise en avant, celui qui doit faire que, je ne sais pas, c'est le match d'ouverture de la saison entre les deux équipes qui ont brillé l'année d'avant. Bah non, en fait, ils s'en foutent. Ils disent, vous vous démerdez. Donc, moi, je ne sais pas, on ne m'a pas sollicité. Moi, comme idée, j'aurais peut-être donné Monaco. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas. Alors, il y a eu une idée à un moment d'aller jouer à Bordeaux. Mais bon, après, selon là où tu vas jouer, il peut y avoir des problèmes avec les ultras. La préfecture intervient en disant, non, le déplacement de supporters va être difficile à organiser là, tout ça. Moi, Monaco, ça me semble un terrain un peu neutre et tout. Puis, tu sais, la Super Coupe d'Europe, elle s'est jouée là-bas pendant pas mal de temps.
Bon, très longtemps, c'était à Monaco.
Ouais, bon, finalement, la solution n'a même pas été évoquée. Ça, c'était ma petite solution à moi, mais on m'a rien demandé. Donc, finalement, on s'en fout.
Oui, parce que toi, t'aimes bien et Monaco. Puis... Parce que là, dans ce trophée des champions, Monaco, c'est pas non plus quelque chose d'évident.
Non, mais c'était pour le terrain neutre. C'était pour le terrain neutre. Puisque c'est pas normal que ça se joue. Si ça se jouait au parc, les Lensois auraient pu dire pourquoi on va au parc. Alors, soit la LFP fait un règlement qui dit que le trophée des champions se joue chez le champion. Tu sais, comme à une époque, la Coupe Davis se jouait toujours chez le tenant du titre et l'autre, fallait qu'il vienne le déloger. Ok, mais alors que ce soit dans un règlement. Mais il n'y a aucun règlement sur l'organisation de ce trophée des champions. Moi, on a l'impression que ça les emmerde tous de le faire. Mais ne le faites pas. Si ça vous emmerde, ne le faites pas. Bon, là, les Lensois sont contents parce qu'ils l'ont gagné, le tirage au sort. Parce que c'est vraiment fait un tirage au sort. Hein. Genre, on a jeté la pièce, machin. Bon, ben, Lens, c'est chez nous. Mais après, il y a eu le problème de la billetterie. Bon, alors, la billetterie, parce que j'ai entendu pas mal de Parisiens un petit peu chouiner et tout. Bon, c'est 50-50, la billetterie, vont partager. Et puis après, pour le fait d'avoir donné uniquement 1900 places, c'est la config Coupe d'Europe qui a retenu pour Bollard. Plus que la config championnat où c'est un petit peu moins de place. Et dans ces cas-là, ça sert à rien de chouiner. Genre, moi, franchement, je comprends parfaitement le CUP qui dit que c'est le bordel et que c'est pas normal que ça se fasse comme ça. Moi, je comprends parfaitement. C'est une finale de coupe. Normalement, il devrait y avoir autant de supporters de Lens que du PSG. Mais comme il n'y a aucun règlement, qu'on a dit au club, vous vous démerdez, que dans ces cas-là, il a fallu demander à la préfecture, qu'est-ce que vous en pensez, la préfecture? On peut faire venir 2000, 5000 Parisiens. Ah non, ça va être trop compliqué, plein été, on a ceci, cela, on ne peut pas. Bon, finalement, on a refusé. On a accepté 1911 places pour les Parisiens et un an ouvert dans les tribunes autres que le parcage. On a ouvert, on a donné un petit peu plus de places. Donc finalement, dans tout Bollard, il y aura un petit peu plus de Parisiens. Et moi, ce qui m'effraie dans cette histoire-là, c'est que finalement, la LFP n'existe pas. La LFP, elle existe ce soir, avec l'autre, avec son costume tout débraillé, avec sa chemise en dehors du pantalon, on a l'impression qu'il s'est postronné dans les loges. Il arrive, il est là, il porte le sac de Nasser. De quoi ?
Non mais calme-toi avec Vincent Labrune. Il doit faire chaud.
J'ai l'impression. Je n'ai pas dit qu'il l'a fait. Oui. C'était une impression, l'image qu'il donnait. Enfin voilà l'image qu'il donne. L'image qu'il donne, c'est celui qui porte le sac de Nasser, qui est là derrière et qui prend aucune décision. Et même celle-là, il n'est même pas foutu. Il n'y a personne à la LFP capable d'organiser ce trophée des champions qui va donc se jouer dimanche à Lens parce qu'ils ont gagné un tirage au sort.
Alors on rappelle que le CUP avait déjà boycotté par le passé ce trophée des champions. Ça avait été le cas au Parc des Princes en 2024. Ça avait été le cas donc au Koweït en 2026 face à l'OM. Et ça sera encore le cas le 16 août. Mais ce qu'il y a aussi quand même dans cette histoire,
moi, je leur donne pas fondamentalement tort.
Évidemment, tu pénalises qui
s'en prenne à personne d'autre. Faut qu'ils s'en prennent à personne d'autre qu'à la Ligue.
Parce que tu pénalises qui? Tu pénalises ton équipe.
Mais pas à Lens, en tout cas, qui se plaignent pas auprès des Lensois, je veux dire.
Ouais, je l'entends. Mais c'est vrai que de décider de pas se déplacer à Bollard, c'est une chose. Mais finalement, tu pénalises ton équipe. Si tu n'es pas d'accord avec la LFP dans ce cas-là, la décision, le tirage au sort notamment, et tu vas devant la Ligue et puis tu leur expliques ton mécontentement. Mais c'est vrai qu'on passe des places.
Parce qu'attention, les équipes du PSG, les dirigeants et la direction ne comprennent pas beaucoup plus ce qui s'est passé. Hein. Aussi, ils trouvent que c'est complètement bidon ce qui est en train de se passer avec ce trophée des champions. Mais bon, encore une fois, n'oublions pas que ça s'est joué en janvier l'année dernière, alors que normalement, ça doit être le match d'ouverture de la saison, qu'on a tenté les expériences à l'étranger, qu'on n'a pas marché. Ce trophée des champions n'est pas géré. Il n'y a pas de règlement. Il n'y a rien qui dit comment ça doit se jouer. Parce qu'au départ, j'imagine qu'on avait voulu copier un peu le Community Shield anglais, qui là, pour le coup, peut être une vraie tradition, c'est le match d'ouverture de la saison. Bon, ben en France, voilà, une fois qu'on a eu l'idée de copier ce truc-là, derrière, on l'a pas géré, on n'a rien fait avec ce trophée des champions. Voilà, je trouve que c'est absolument lamentable. Mais comme il y a eu beaucoup sur les réseaux ces derniers temps de plaintes, c'est à Lens, c'est pas juste, pourquoi vous dites que c'est pas juste et tout, j'avais vraiment envie d'expliquer clairement tout ce qui s'était passé autour de cette compète. Voilà.
On rappelle que ce trophée se jouera dimanche soir sur la pelouse de Bollard, 20h45 coup d'envoi, et évidemment vous suivrez ça en direct et en intégralité sur RMC. Messieurs, il est l'heure de se quitter. Le PSG donc qui gagne une nouvelle fois la Supercoupe, victoire 2-1 face à Aston Villa.
Et on sera dimanche, hein.
Ben, bien sûr. Merci Daniel, merci Maxime, belle nuit à tous sur RMC.
Bye bye.
Merci à tous.